France Culture, les matins d'été.
Des milliards à la une ce matin, nous en avons beaucoup parlé, ces milliards d'euros de prêts, de subventions sur lesquels les 27 se divisent depuis 3 jours et 3 nuits à Bruxelles. Des euros sans visage, il n'y en a pas sur nos billets. Un détail, pas sûr, cette absence de figure peut être perçue comme l'une des manifestations de cette Europe qui occupe tant bien que mal le terrain de la rationalité, mais abandonne aux nations et aux nationalistes le champ des émotions et des sentiments. C'est en tout cas votre lecture, Giuliano D'Ampoli, bonjour.
Bonjour.
Votre lecture et vos propos en ce qui concerne cette dernière phrase sur les émotions et les sentiments. Vous êtes essayiste, ancien conseiller politique de Matteo Renzi, ancien adjoint à la culture à la mairie de Florence, aujourd'hui président de Volta, un centre de réflexion basé à Milan et à Bruxelles, et auteur il y a quelques jours d'une note du groupe d'études géopolitiques intitulée « Cette idée pour un plan de relance culturelle de l'Union ». On imagine que ce qui se passe depuis ce week-end à Bruxelles vous conforte dans cette vision des choses.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de vivre au niveau européen est très important parce qu'on voit que au-delà des négociations qui sont naturellement très serrées et c'est tout à fait naturel, il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer au niveau européen. Le plan de relance sera d'une façon ou de l'autre adopté. Il y a des tabous, des anciens tabous qui tombent, des experts de questions européennes qui parlent d'un véritable moment hamiltonien, c'est-à-dire le moment où les États-Unis ont décidé de mutualiser la dette des différents États européens, américains, et donc sont arrivés à vraiment un moment d'unification important. Donc tout ça est en train de se passer et c'est très encourageant. Mais ça reste au niveau de la raison, de la rationalité, alors que au niveau des sentiments et d'un vrai sentiment européen, on est encore très loin d'avoir atteint une identité européenne qui soit partagée par tous.
Ce que vous expliquez dans cette note, donc Giuliano D'Ampoli, c'est que l'Europe telle qu'elle fonctionne empêche la formation d'un peuple européen parce qu'elle entoure tout ce qu'elle fait d'ennui. Et donc, selon vous, la culture peut rompre ou créer autre chose que cet ennui?
Oui, mais vous voyez, l'ennui européen n'est pas un hasard, c'est une stratégie. C'est-à-dire que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les premiers Européens qui ont décidé de mettre main à cette construction grandiose ont pensé, et ils avaient probablement raison, que la culture, l'identité, les passions étaient dangereuses pour l'Europe. Ils sortaient de la guerre et donc ils ont vu ça comme un risque. Donc ils ont pensé, on va faire une Europe très ennuyeuse. On va le faire presque sans en parler, sans beaucoup de rhétorique, sans beaucoup de passion, sans culture. On va lier des intérêts en commun le plus possible et à la fin, on aura un réseau tellement dense d'intérêts en commun que l'Europe va jaillir de ça. Et ils ont eu raison d'une certaine façon. Moi, je pense que si on était parti de la culture, on n'aurait probablement pas réussi à faire l'Europe qu'on a fait. Seulement, aujourd'hui, on voit bien que ce n'est plus suffisant. On voit bien que des intérêts en commun, il n'y a pas véritablement une identité commune qui est ressortie. Et même au contraire, ce qui est en train de se passer, c'est que les anti-européens, ceux qui investissent le plus sur l'identité, la culture et les passions, ce sont aujourd'hui ceux qui veulent détruire l'Europe. Et ils trouvent un terrain très fertile parce que l'Europe elle-même n'arrive pas du tout à mobiliser des sentiments et des passions en sa faveur.
Alors, vous expliquez et vous rappelez peut-être, vous l'avez dit un peu, mais peut-être c'est utile tout de même de rappeler que la culture est devenue finalement tardivement un sujet européen, en tout cas je veux dire au niveau des institutions, et qu'aujourd'hui encore c'est un petit sujet et un petit budget.
C'est un tout petit sujet. L'Europe entre parmi les compétences de l'Union européenne seulement en 1992. Elle reste un peu le vilain canard, disons, des politiques européennes. Nous sommes aujourd'hui autour de 0,001% du budget communautaire, enfin de l'Union. Et surtout, justement, il y a cette idée que il ne faut pas faire de vagues. Donc, on reste sur des programmes très 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 consensuels et où on essaye de ne pas créer la controverse. Vous en avez parlé en ouverture du sujet. On ne met pas de visage sur les billets de banque. On ne fait pas de monuments. On fait un hymne européen sans parole. Enfin, on essaye de faire du symbolique neutre ou de la culture neutre. Seulement ça, évidemment, ça ne fonctionne pas, c'est très ennuyeux et ça laisse un vide par rapport aux passions et aux identités qui se réveillent au niveau national.
Et en même temps, on peut vous dire, Giuliano d'Ampoli, que la culture européenne, elle existe par les artistes qui se produisent, qui sont exposés dans les différents pays européens. Et ça, c'est de la culture européenne et ça existe. Ça n'appartient pas aux institutions, mais ça existe.
Ah, tout à fait, mais ça existe depuis bien avant que la construction européenne, non? Je veux dire, il y a une culture européenne qui circule. Après, il y a plusieurs histoires qui ont essayé de reconstruire ça. On peut remonter très en arrière dans l'histoire. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que la politique européenne et la construction politique de cette chose est quand même tout à fait extraordinaire qu'il y ait l'Union européenne, parce que on présente ça comme quelque chose justement de bureaucratique et ennuyeux, mais le fait que moi je puisse, à la fin de cette émission, sortir de chez moi, monter en voiture et conduire jusqu'à Tallinn, sans traverser une seule frontière et sans changer de monnaie, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire quand même dans l'histoire de notre continent. Et sur tout ça, je trouve il n'y a pas véritablement d'investissement politique et de politique culturelle, justement. Alors, bien sûr, les artistes ont toujours fait ça, et grâce à Dieu, il y a des écrivains, des artistes, des metteurs en scène qui travaillent sur ça. Mais l'Europe, elle ne travaille pas sur ça, elle ne mobilise pas ça, et à mon avis, elle en paye le prix.
Alors justement, pour parler de ce que vous proposez, puisque on parle de cette idée pour un plan de relance culturelle de l'Union, il y a d'abord l'idée d'un New Deal que certains ont appelé de leur vœu au niveau national et que vous souhaitez à l'échelle de l'Union. Alors en quoi est-ce que cela consisterait?
Il faut bien voir que dans le New Deal originel de Franklin Delano Roosevelt des années 30, il y a une partie de politique publique, évidemment, pour faire face à la crise, et donc un paquet et un investissement financier considérable, mais il y a aussi en même temps un investissement symbolique et culturel très important. Alors, on fait de la propagande d'une certaine façon, on utilise beaucoup la radio, comme vous le savez sans doute, et on mobilise des artistes, des créateurs, des écrivains. Il y a un projet extraordinaire qui s'appelle le Writers Project, à travers lequel on mobilise des milliers et des milliers d'écrivains. D'ailleurs, des gens comme John Steinbeck vont pouvoir créer leur premières œuvres grâce à ça, pour faire un grand autoportrait collectif de l'Amérique de cette époque. Et ce n'est pas que de la géographie, ce n'est pas que des gentils sentiments. C'est à cette occasion-là, par exemple, on va rentrer pour la première fois dans la thématique de l'esclavage avec le Slave Narrative Project. On récolte des milliers de témoignages oraux de l'expérience de l'esclavage aux États-Unis, on fait des livres pour enfants, on fait des guides et on produit ce grand effort intellectuel de narration par rapport à l'Amérique de cette époque. Pourquoi ne pas penser à quelque chose aujourd'hui de similaire pour l'Europe d'aujourd'hui, qui ne serait pas évidemment que fait par des écrivains, mais aussi, encore une fois, par des artistes, des metteurs en scène, etc., etc. Ça va inévitablement créer la controverse, parce qu'il y aura des points de vue différents, on dira, il y aura des polémiques, on dira...
Oui, et puis parce que vous avez prononcé vous-même le mot propagande, voilà, le risque de ça, effectivement, c'est un côté culturel. culture officielle, où on peut dire aussi que la culture, c'est d'abord de la création, de la liberté, et donc de...
Il faut, à mon avis, justement, il faut multiplier les voix. Donc, ce ne serait pas intéressant d'avoir un programme qui veuille justement faire la géographie de l'Europe. Il faut, à mon avis, avoir des milliers de voix différentes, dont des voix qui seront forcément très critiques ou qui vont faire ressortir des éléments tout à fait négatifs de l'expérience européenne contemporaine. Mais on ne peut pas avoir peur de la controverse, parce qu'à la fin, l'intérêt et la fin de l'ennui, il naît de la controverse. Aujourd'hui, si vous mettez l'Europe dans le titre d'un livre, et même, j'imagine, d'une émission radio, c'est courageux d'en parler toujours, parce que ça n'aide pas l'audience. Non, je veux dire, les gens, vous mettez ça dans le titre, et les gens n'achètent pas, ils n'écoutent pas, espérons qu'il y ait quand même quelqu'un qui est en train de nous écouter en ce moment, mais en principe, il vaut mieux mettre un autre terme plutôt que l'Europe. Parce qu'il y a cet effet d'ennui qui est très profond. Il faut absolument sortir de ça, même si ça signifie créer la controverse. Inévitablement, ça va le faire, mais je ne vois pas d'autre façon.
Oui, et vous dites dans votre note qu'effectivement, le thème européen ne fait plus recette, y compris auprès de la communauté académique. Vous citez Gilles Pécou, le recteur de l'Académie de Paris, qui dit « Il suffit d'ouvrir un observatoire sur la Méditerranée ou la mondialisation et tout le monde y vient », alors que quand ce sont des centres d'histoire ou de philosophie de l'Europe, eh bien, ça n'intéresse personne, en gros. Est-ce à dire que l'Europe aussi ne constitue plus un enjeu? Et est-ce que, au bout d'un moment, tout simplement, peut-être qu'on considère que c'est plus là que ça se passe, que ça n'est plus là, que c'est intéressant de réfléchir?
Oui, c'est peut-être un peu ça. Si on regarde dans le monde académique, c'est assez frappant, c'est-à-dire par rapport au débat d'il y a 20 ou 25 ans, il y a aujourd'hui beaucoup plus d'instruments, évidemment, pour parler de l'Europe et faire des discours européens dans l'université. Le protocole de Bologne, un rapprochement entre les universités qui a été quand même tout à fait frappant. Mais il y a beaucoup moins de passion, il y a très peu d'historiens qui ont envie de travailler sur un manuel d'histoire européenne, qui est une autre des propositions que j'essaye d'avancer, etc. Oui. En même temps, il faut bien voir que, encore une fois, les seuls qui parlent de façon passionnante de l'Europe, ce sont les anti-européens. Vous savez quel est le budget, quel est le pays européen qui consacre la plus grande partie de son budget à la culture? C'est la Hongrie de Viktor Orban qui consacre le 3,5% de son budget à la culture, donc beaucoup plus que les autres, parce qu'il a compris que c'est un enjeu stratégique. Seulement, évidemment, il a une vision qui est à l'opposé de la vision des pro-européens d'aujourd'hui. Si on ne mobilise pas des ressources sur ce terrain-là, et on imagine que l'Europe, ça doit être simplement un lieu de raison qui laisse la passion en dehors des portes, à mon avis, on court un risque qui est tout à fait considérable, parce que en politique et dans les processus politiques, les passions et les sentiments jouent en général un rôle beaucoup plus important que la raison et même que les intérêts. On l'a vu à l'occasion du référendum du Brexit. Ça a été beaucoup dit. C'était une passion et un sentiment qui a affronté une raison. Eh bien, la passion et la raison et le sentiment ont gagné, on a vu avec quelles conséquences géopolitiques considérables. Donc l'enjeu, franchement, je pense qu'il est là et qu'il est très important.
Alors vous le disiez, Giuliano D'Ampoli, d'après vos idées, il y a donc une histoire pour l'Europe, une éducation européenne qui reste à construire. Et en même temps, là, vous savez bien ce qu'on va vous dire aussi, comme pour la culture du reste, c'est que l'histoire, c'est d'abord l'histoire de chaque État, que déjà on n'a pas le temps d'apprendre correctement, de connaître correctement notre propre histoire, chacun dans notre pays. Alors, pensez donc l'histoire européenne, comment on fait ça?
Oui, et évidemment, il faut faire des choix. Moi, je ne pense pas du tout que l'identité européenne et l'histoire européenne doivent être construites contre celle des États et des nations. Ce serait de la folie pure. Mais un processus qui, dans les cursus scolaires eux-mêmes, mettrait plus l'accent sur ce qui unit, sur ce qui constitue l'expérience et d'une certaine façon un peu la spécialité européenne, comme c'est déjà le cas dans beaucoup de cursus franco-allemands d'ailleurs, parce que les seuls qui ont réalisé jusque-là des manuels d'histoire communes, ce sont les Français et les Allemands. Et bon, ça se fait de façon tout à fait graduelle. Ça ne peut pas être fait de façon dogmatique. Donc encore une fois, je pense qu'il faut s'exposer à des controverses, à des polémiques d'historiens et de non-spécialistes même qui peuvent entrer sur ce terrain-là. Mais si on avait commencé dans les années 70, quand la première proposition de la Commission européenne dans ce sens avait été formulée, je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait pas à la situation actuelle où on voit bien que dans une situation d'urgence comme celle que nous venons de traverser, celle de la crise du corona, les réflexes nationaux, même au cœur du continent européen, finissent toujours par prévaloir. Et franchement, c'est un peu désespérant par rapport à tous ceux qui pensent que nous avons un destin européen commun.
On est d'accord, Giuliano Daumpoli, pour dire que il s'agit vraiment là, dans votre esprit, de relancer l'Europe par la culture et non pas de relancer la culture par l'Europe. Vous appelez la culture à la rescousse, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a là un très grand travail à faire et je ne suis pas enthousiaste des programmes des gens qui disent simplement ah, il faut donner plus d'argent à la culture, on n'a pas assez. Ce n'est pas tout à fait la question. La vraie question, c'est un peu de renverser l'approche et de briser le tabou de la neutralité identitaire de l'Europe, justement. Hein, je pense que c'est une question presque philosophique. Et c'est vrai que sur ça, les artistes et le monde de la culture a peut-être plus à donner qu'à recevoir. Je pense qu'il faut un peu moins de conférences et un peu plus de création. Je vais vous faire un dernier exemple. Quand on a, il y a la série Borgen que vous connaissez peut-être, tout à fait passionnante sur un sujet qui n'est pas du tout passionnant, qui est la politique
Danoise.
danoise. On a justement demandé au créateur de la série pourquoi il avait fait ça. Et il a dit, écoutez, j'ai voulu rendre passionnant justement un sujet très ennuyeux comme la politique danoise qui est faite de médiation, de parlement, de choses un peu incompréhensibles. On a besoin d'une approche de ce type pour l'Europe aussi. Peut-être un peu moins de conférences et un peu plus de séries, de bonnes séries télévisées.
Merci beaucoup, Giuliano Daumpoli. Je rappelle que vous dirigez le centre de réflexion Volta à Milan et Bruxelles. Votre note, donc cette idée pour un plan de relance culturelle de l'Union publié par le groupe d'études géopolitiques, est à lire, à retrouver dans la revue en ligne Le Grand Continent.